Je t'écris tout ceci aussi clairement que je le peux, parce que je pense que ce que tu désires d'abord, ce sont des renseignements précis. Mais ma pensée est bien différente. Depuis jeudi soir, c'est avec toi que je vis. Il me semblait que je t'avais mal quitté, et que cette séparation, au milieu de tant d'incertitudes, sous un ciel si plein de dangers, m'est difficile à supporter. Mon espoir est que tu vas venir. Si tu peux le faire en voiture, fais-le, ce sera plus facile. Sinon, il te faudra faire ce très long voyage que j'ai fait. Il y a aussi le vélo, et là, je pourrai aller à ta rencontre. N'oublie pas ta promesse, mon chéri, celle que je vis en ce moment. Je crois que je pourrais trouver la paix dans ce pays. Avec quelques arbres, le vent, une rivière, j'arriverai à me refaire ce silence intérieur que j'ai perdu depuis si longtemps. Mais cela n'est pas possible si je dois supporter ton absence et courir après ton image et son souvenir. Je n'ai pas du tout l'intention de jouer au désespéré, ni de me laisser aller. À partir de lundi, je me mettrai au travail et je travaillerai, cela est sûr. Mais je veux que tu m'aides et que tu viennes surtout. Toi et moi, nous nous sommes jusqu'ici rencontrés et aimés dans la fièvre, l'impatience ou le péril. Je n'en regrette rien, et les jours que je viens de vivre me semblent suffisants pour justifier une vie.
Je ne connais rien du Chili.
C'est quoi la Chine pour
c'est
vous
quoi la Chine?
Vous êtes déjà allé en Chine?
Vous êtes déjà allé en Chine?
Vous voulez aller en Chine?
Non.
Ça vous dit?
Ah, moi.
En las últimas cuatro semanas, todos los chilenos hemos vivido tiempos duros y difíciles que han golpeado el cuerpo y el alma de nuestra sociedad. En algunos casos no se respetaron los protocolos.
23号上午在人民大会堂举行2020年春节团拜会。 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话，代表党中央、国务院向全国各族人民、向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞。
Vous venez d'écouter un extrait d'une lettre écrite par Albert Camus à Maria Cassares le samedi 1er janvier 1944 et on y entend un amant qui attend avec impatience que celle qu'il aime la rejoigne. On y devine un peu la souffrance de la distance et en même temps la puissance du lien qui les unit et qui permet de conserver une complicité malgré l'éloignement. Est-ce qu'une relation longue distance, c'est juste attendre que l'autre vienne? Est-ce qu'on est vraiment soi pour l'autre tout en étant ailleurs? Bienvenue dans le deuxième épisode de Long Courrier, où nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Et pour cela, je suis en compagnie de Nicolas et de Martin. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir à toi. Je pense que c'est un épisode super important parce que le thème des relations longue distance, c'est un thème qui s'est généralisé, qu'on entend beaucoup dans les médias, qu'on entend beaucoup dans la culture populaire. Et puis, ça procède désolé d'utiliser ce vocabulaire-là, vraiment de la globalisation de nos relations, du fait que... On n'habite plus forcément un endroit ou deux, que les déplacements sont plus forcément pendulaires, qu'on va d'un endroit à un autre, à encore un autre. On a pu en parler à un premier épisode sur les zones de confort. On est dans une époque où en même temps, on ne sait plus très bien où on se sent à l'aise, on ne sait plus très bien où on va. Et c'est pour ça que les relations longue distance sont si problématiques.
Tout à fait. Et moi, je voudrais lancer du coup ce premier épisode, ce deuxième épisode, parce que vous avez écouté le premier, évidemment, avec une anecdote. Il y a pas si longtemps, j'étais en cafette, je buvais mon café tranquillement avec un pote, et celui-là m'a parlé tranquillement de Netflix Party.
C'est quoi Netflix Party, alors ?
Oui, moi, je suis généralement à la ramasse sur ce genre de truc. Mais Netflix Party, c'est... un logiciel sur Netflix qui vous permet de regarder un film ou une série en même temps que quelqu'un, n'importe qui, que ce soit votre petit ami, vos copains, un groupe, n'importe qui. On regarde la série concomitamment. Quand on fait pause, la vidéo s'arrête. Il y a un fil de chat à côté pour discuter. Et voilà.
C'est-à-dire que quand même, quand tu arrêtes la série, quand tu mets pause sur ton épisode, l'autre est obligé d'avoir son épisode en pause.
Oui, c'est exactement.
Un peu dictatorial comme bail quand même, non?
Et du coup, moi, de mon côté, je me suis demandé à quoi ça servait. Parce que spécialement, moi par exemple, je déteste quand on parle pendant un film. Donc le fait d'avoir un fil de chat, c'est juste l'enfer. Et du coup, j'ai fait quelques recherches et je ne me suis pas retenu d'aller vous chercher cette citation du magazine Elle qui explique les raisons de l'existence de Netflix Party. Imaginez un peu. Vous discutez sur Tinder ou Mythique, vous vous plaisez bien, vous vous racontez vos vies. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais pour sortir du chat classique et des échanges un peu bateaux, pourquoi ne pas regarder ensemble une série ou un film sur Netflix ? À distance, un moyen comme un autre de se rapprocher et de tisser des liens. C'est quand même beau. À des milliers de kilomètres, regardez quand même dans la même direction. Plus sérieusement, une relation à distance, c'est d'abord une relation sans l'autre. Tous les moyens sont alors bons pour remédier à cette absence. Téléphone, FaceTime, etc. Mais lorsque l'on tente de maintenir à distance une relation, on se rend rapidement compte que ces moyens de communication sont à double tranchant. En nous mettant en contact avec la personne aimée, ils nous révèlent aussi ce qui, dans la relation présentielle, manque fondamentalement dans ces relations à distance. Chaque moyen de communication cherche à combler un vide. Parfois, ils y parviennent. Parfois, ils ne font que le mettre en évidence. Et parfois, ils ajoutent quelque chose à la relation qui n'y était pas précédemment. La question de la relation à distance mérite donc d'être posée, et notamment dans cette émission sur le voyage. Comment garder contact avec des amis? Comment maintenir une relation avec quelqu'un à distance?
Oui, ça pose encore pire que ça. Ça pose la question vraiment... La question à 1000 balles, c'est celle de... amour versus amitié versus famille. Vraiment, quand la distance se pose comme facteur intangible, on se dit ça remet les définitions en jeu, parce qu'il y a certaines catégories qui évidemment vont tolérer un peu plus l'absence de messages, l'absence physique, que d'autres. Et c'est là où vraiment on attaque le cœur du sujet.
Oui, parce que une relation longue distance, on revient vraiment au concret, à la base, c'est d'abord deux personnes qui s'aiment mais qui sont séparées physiquement par la distance. Et donc ce dont j'aimerais qu'on parle en premier, c'est un peu l'absence du corps de l'autre, parce que dans les normes de la société actuelle, ce qui distingue la relation amoureuse d'une relation amicale, surtout la prééminence du rapport physique. Donc comment est-ce qu'on peut surmonter cela? Avant de débattre sur le sujet, j'aimerais vous faire écouter un peu de musique, parce que moi, cette question, ça m'a rappelé une chanson que j'écoutais au tout début de mon collège et qui disait « My heart is so jet lag », mon cœur en décalage horaire.
Quelle heure est-il où tu es ? Un autre avion et tu repars. Je me sens si loin si tu savais. Et j'attends ton retour encore. C'est comme si on vivait.
Et voilà, j'espère que vous aurez reconnu Jet Lag de Simple Plan, et c'est une version française de la chanson, puisque Simple Plan est un groupe québécois, et en fait il y a une version anglaise aussi, mais qu'on n'écoutait pas du tout du coup. Mais je voulais juste me rappeler un peu du clip, parce que c'est un souvenir un peu émouvant. Je vois très bien le clip où en gros il y a le groupe qui joue au milieu d'un terminal d'aéroport vide, ouais. Vraiment le terminal par excellence, ça pourrait être n'importe où dans le monde. Et de l'autre côté, il y a Marie-May qui donc fait la partie, fait les couplets, qui est dans sa chambre d'hôtel et qui attend.
Et qui attend sur
passent.
Son lit, et les jours passent, c'est dur. Alors, je ne sais pas si ça vous a beaucoup inspiré, cette chanson. En tout cas, ça rappelle des bons souvenirs. Et surtout, ça montre que les relations longue distance, c'est vraiment une situation hyper présente, autant dans les médias que dans la pop. C'est une situation qui est partagée par beaucoup de gens. Alors, on peut se dire que c'est parce qu'entre autres, on est dans des sociétés beaucoup plus mobiles, surtout pour une certaine partie des classes moyennes et plus aisées, qui peuvent voyager beaucoup plus facilement. Et aussi parce que, vous l'avez dit, il y a des moyens de communication qui facilitent les relations à distance. Mais en vrai, est-ce que vous pensez que ces moyens de communication, ils permettent vraiment de surmonter l'absence du corps de l'autre ? Dites-moi tout.
À mon avis, en fait, les moyens de communication, la plupart du temps, marquent ce qui manque plutôt que remédient à ce qu'ils souhaitent remédier. Alors là, je vais faire mon pédant et puis je vais appeler Freud et le malaise voilà. Dans la culture où il nous explique que la plupart des nouvelles technologies servent à créer un manque que les nouvelles technologies ont créé. C'est un truc très conservateur où il dit, par exemple, que si le téléphone a été inventé, c'est que d'abord on a inventé le train et que le train a emmené les fils loin de leur mère, les filles loin de leur père, et que du coup, il faut inventer le téléphone pour remédier à cette distance. Bon, c'est très conservateur comme vision et c'est pas trop ce que... Enfin, c'est pas entièrement ce que je veux dire là, mais les moyens de communication, la plupart du temps, marquent l'absence de l'autre particulièrement. Par exemple, le téléphone, c'est la voix de l'autre qui nous parvient. Il ne nous parvient que la voix de l'autre, et donc on peut constater que l'autre n'est pas là physiquement. Avec le FaceTime, on peut le voir, on peut lui parler, mais cette présence reste intangible et on n'a pas accès physiquement à l'autre. Et à travers ça, on se rend compte de l'importance de la présence physique de l'autre. Bon, de la relation amoureuse, ça paraît assez évident, ne serait-ce que d'un point de vue sexuel. Mais dans la relation amicale, on peut rapidement se rendre compte par ces biais-là que la présence physique est aussi également très importante.
Ouais, après, si je voulais tirer un peu par les cheveux l'argument, je pourrais te répondre que un contact téléphonique, un contact par Skype, ça ne motive pas seulement un sens ou deux, ça motive absolument tous tes sens. Et puis la question de l'intangible, bon, à partir de quel moment est-ce que l'autre est vraiment tangible, si on peut dire le truc ? Parce que, bon, ça paraît un peu tria comme question, mais il y aura toujours un certain espace entre deux humains, on peut pas être mélangé entre deux atomes, entre deux tout ce que tu veux. Enfin, c'est une question sérieuse.
Tu serais donc prêt à échanger un ami avec un Skype ?
Mais on n'est jamais un Skype sans ami n'est pas un Skype de toute façon. T'es pas en train de discuter avec un robot, et même quand tu discutes avec un robot, il y a quelqu'un qui a fait un robot. On peut vraiment, c'est un argument qui peut se renouveler à l'infini.
Ça part en prod. Tu pars un petit peu loin.
Non, mais vraiment, enfin, la question qui est derrière, c'est est-ce que vraiment on a besoin du contact physique pour être proche ? Est-ce que si on n'a pas de contact physique, nécessairement, on n'est pas proche ? Moi, j'ai pas mal d'anecdotes à vous donner là-dessus. Bon, je vais vous en donner une, c'est déjà assez.
Vas-y, on t'écoute.
C'est celle d'une amie à moi qui était assez introvertie au lycée et qui, à partir d'un moment, on n'a plus beaucoup entendu parler d'elle, mais en fait, elle nous a raconté qu'elle avait vraiment trouvé l'amour de sa vie sur un blog. Et je lui ai dit, waouh, c'est génial, alors du coup, vous êtes vus, vous êtes heureuse, est-ce que ça se passe bien ? Ah non, on s'est jamais vus. Mais alors, au début, enfin, j'ai vraiment tiqué, je me suis dit, mais c'est impossible, vous vous êtes jamais vus en vrai, vous n'êtes pas touchés, pendant un moment, elles n'avaient même pas vu la photo de l'autre. Je lui ai dit, non, mais elle m'a répondu, non, mais on vit dans une génération où vraiment, ce qui est prégnant, c'est le contact via les textos, c'est le contact via ce genre de truc, et on a vraiment l'impression d'être dans les bras l'une de l'autre quand on discute la nuit.
Dit comme ça fait un peu penser au film Her, où le gars tombe amoureux d'une intelligence artificielle qui, par définition, n'a pas de corps. C'est assez marrant. Mais dans tous les cas, ça souligne tous les aspects. C'est pas que l'aspect physique est primordial, mais qu'il est un aspect important que les FaceTime et le téléphone révèlent et surtout mettent en valeur.
Et surtout, Nicolas, tu as parlé de situations où, en fait, de base, les deux personnes ne s'étaient jamais rencontrées, par exemple, dans ton anecdote. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que quand tu rencontres la personne, quand tu vas la voir chez elle, ensuite chez lui, ou dans n'importe quelle situation, t'as le manque d'un souvenir de son corps, tu vois, par exemple. Ouais. Et que du coup, c'est plus compliqué de gérer une relation à distance quand justement tu vois la personne juste de temps en temps et pas soit jamais, soit toujours.
Non mais posons la question, venons-en au fait, parlons de sexe, les amis. La question fondamentale, c'est est-ce que le contact physique est vraiment nécessaire pour faire l'amour ? Ça, c'est... Non, mais c'est une question sérieuse parce que un sujet qui est maintenant omniprésent dans la déconstruction de nos sexualités, c'est celle des pratiques. Petit coucou d'ailleurs au podcast Les couilles sur la table, qui parle merveilleusement bien et de manière assez analytique de sexualité masculine. Et que quand même, une norme sociale dont on parle assez peu, c'est celle du contact. Juste le contact en général. Hein. On sait pourtant, on le sait, on le sent, qu'on peut transmettre du plaisir avec des messages, avec sa voix, avec des signes. Alors les choses que tu dis, c'est pas incompatible avec ce que tu viens de dire, parce que ce que tu essayes de me faire comprendre, c'est que le souvenir de l'autre, c'est déjà suffisant, mais honnêtement, je pense que l'inverse... Donc la situation ou inverse où on ne s'est jamais vu, mais on a quand même le désir de quelque chose qu'on n'a pas forcément ressenti physiquement, le contact, deux personnes qui se tiennent la main, et ben c'est pas forcément nécessaire.
Ross, hi, it's me. I just got back on the plane and I just feel awful. That is so not how I wanted things to end with us. It's just that I wasn't expecting to see you, and all of a sudden you're there and saying these things, and now I'm just sitting here and thinking of all the stuff I should have said and I didn't. I mean, I didn't even get to tell you that I love you too. Because of course I do. I love you. I love you. I love you. What am I doing? I love you. Oh, I've got to see you.
Ouais, cette scène, elle est vraiment importante pour moi, je sais pas pour vous, parce qu'elle cristallise plein de choses stéréotypées, mais dans les sitcoms, évidemment, je sais pas si vous avez reconnu la série Friends.
Bah, c'est Rachel, bien sûr.
Quand même. Mais ça réunit plein de choses stéréotypées, mais avec un bon scénario, de bons acteurs, et puis bon, c'est un épisode final. Donc on sent la tension narrative qui se délite. Mais en tout cas, bon, vous voyez, les aéroports, les gares, tout ce que vous voulez, ce sont des nouveaux nœuds où vraiment la nature d'une relation, ça peut changer. On se sépare, puis on se rejoint. Vous en pensez quoi ?
Alors, moi, je pense que ouais, ça peut rajouter aussi de la tension. Ah, j'ai trop envie de le revoir, j'ai trop envie de la revoir. Ça peut ajouter quelque chose à la relation et ça peut... permettent de donner plus envie de revoir la personne, que ça devienne quelque chose d'exceptionnel ou qu'on savoure beaucoup plus sa présence si peut-être qu'elle est plus de manière plus provisoire quoi, ou éphémère en tout cas.
Oui, on a tendance à l'oublier en fait quand on s'engage dans une relation à distance. Mais une relation à distance, ce n'est pas une relation qu'on va mettre en pause, ce n'est pas une relation gelée dans le temps, c'est une relation qui a vocation à évoluer, en fait qui doit évoluer en face de l'absence de l'autre. Et donc il faut s'adapter, que ce soit en sautant d'un avion comme dans Friends ou pas.
Après, la question que je trouve que ça amène à se poser, c'est est-ce que, dans ce cas, une relation, c'est toujours attendre l'autre ? Ou est-ce qu'on peut vraiment se projeter en sachant qu'on va passer des années et des années à vivre loin de la personne qu'on aime ? Ou est-ce qu'on se dit, OK, c'est juste pour un ou deux ans, et après, on se trouvera une ville un peu entre chez lui ou chez elle, et on vivra enfin ensemble ? Est-ce qu'on a envie de ces retrouvailles définitives ou pas ?
Bah, hors de l'envie, peut-être que j'ai quelques informations... intéressante à vous transmettre, c'est qu'en 2018, il y a un sondage géant. Je vous transmets tout. Je suis généreux aujourd'hui, vous avez vu. Mais en 2018, un sondage géant a été réalisé sur plus de 1000 personnes ayant été ou étant toujours en relation longue distance, avec des répondants et répondantes états-uniens, états-uniennes et britanniques. Résultat de l'enquête, 50% de ces couples-là ont rompu, 28% sont en ce moment en relation à longue distance, et les 23% restants ont... réduit à néant cette distance en se réunissant. Et le fait le plus marquant de cette enquête, c'est que les couples qui se sont finalement réunis dépensaient en moyenne 2,5 fois plus en frais logistiques que ceux qui ont mis fin à leur relation. Donc finalement, on a du mal à envisager que les couples qui n'imaginent pas se réunir, qui ne sont pas prêts à mettre les moyens pour se faire, puissent être des couples durables.
Ouais. Ouais, ça...
C'est vrai, ça fait réfléchir. Non, mais franchement, enfin, je me dis que à partir de ce fait-là, il faut quand même réfléchir à la question fondamentale qui est est-ce que les relations à longue distance sont vouées de toute façon à mettre fin à la distance d'une façon ou d'une autre ? Qu'est-ce que t'en penses, Martin ?
Ben, ça dépend, en fait, si mettre fin à la distance, c'est se déplacer pour mettre fin à la distance, ou si c'est essayer de trouver des palliatifs pour combler cette distance. C'est vrai que ce que disait Mathilde tout à l'heure sur le fait que c'est différent s'il n'y a jamais eu de coprésence physique que si on s'est rencontré sur un blog, c'est important dans ce cas-là. Si on a commencé une relation directement physiquement, c'est peut-être difficile de maintenir une relation où on ne se voit pas du tout. Après, aujourd'hui, c'est rare qu'on ne se voit pas du tout. C'est surtout des relations comme les gens qui partent un an à l'étranger, 6 mois à l'étranger, qui peuvent être longtemps, enfin, où on peut être longtemps absent, mais on sait la plupart du temps qu'on va finir par revenir, en fait.
Et après, je pense que ça dépend aussi vachement des personnalités, de si on a une personnalité plutôt indépendante ou si au contraire on a besoin d'une espèce de sécurité affective en permanence. Enfin, je pense que ça dépend beaucoup des gens. Et aussi, il y a quelque chose qui peut paraître... après, ça, c'est vachement dépendant de notre société hyper mobile et notamment aux carrières professionnelles, mais il y a certains métiers qu'on exerce où, en fait, même si on habite tous les deux au même endroit, par exemple, je pense aux journalistes qui vont sur le terrain hyper régulièrement, que tu habites au même endroit ou que tu habites super loin, enfin, tu peux avoir une vie qui t'empêche de voir la personne assez régulièrement. Donc, ça dépend aussi de tes projets. Est-ce que tu veux fonder une famille ? Enfin, il y a plein d'autres facteurs un peu extérieurs qui rentrent en jeu aussi, je pense.
Ouais, franchement, l'histoire de famille, c'est quelque chose de vraiment fondamental, parce qu'à mesure qu'on remet en question les codes normatifs de la famille nucléaire, la famille avec le papa, la maman, les deux enfants, le petit blond, la petite brune, enfin, je sais pas, j'imagine, mais vraiment, il y a dans ces engagements-là, et ensuite, c'est quelque chose de très stéréotypé que je suis en train de dire, parce que ça a toujours été une histoire de modèle. Il y a toujours eu des déviances à ce modèle, il y en a toujours eu énormément. Mais quand l'attente principale, c'est pas forcément quand on va faire un autre boulot, de revenir au bout d'un moment, de refermer cette distance spontanément, parce qu'évidemment, il faut avoir un foyer. Il faut lier ça aussi, cette question, au problème d'être propriétaire d'une maison, être propriétaire d'un appartement ou pas. Il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas envie de ça. Il y a aussi la question écologique qu'il faut rajouter à ça. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'enfants, il y a des gens qui préfèrent. Enfin, toute une ribambelle vraiment de problématiques liées au nouveau mode de vie de notre jeunesse. Sans parler évidemment du contexte social du truc, parce que les relations à longue distance, c'est...
Et juste, tu parlais des nouveaux modes de vie, il y a aussi les nouveaux modes de relations. On a parlé par exemple avec les relations libres, par exemple, qui deviennent un peu plus populaires, j'ai l'impression, ou ce genre de relations. Tu peux aussi compenser, on a parlé du contact physique, des relations sexuelles, etc. Tu peux aussi complètement imaginer être en relation avec quelqu'un qui est loin et voir d'autres personnes en attendant qu'ils reviennent, ou je ne sais pas ce que vous en pensez.
Faisons un peu de mythologie grecque pour parler du plus connu des voyageurs, du plus connu des traducteurs. Il s'agit bien sûr d'Hermès, fils de Zeus et de la nymphe Maïa, qui charme les dieux et déesses dès son plus jeune âge par ses formidables pouvoirs de mobilité physique. Pouvoirs souvent d'ailleurs associés dans les textes à sa ruse maligne et ses talents de persuasion. Il devra pourtant, pour se faire une place en tant que messager des dieux, jurer sa totale fidélité à Zeus et à l'Olympe. La distance géographique est donc, au sens premier, un problème herméneutique. Si l'amoureux ou amoureuse volage et passager, mais aussi par définition instable et même parfois infidèle, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait dire que de toute façon, même dans les relations où on se jure confiance, la distance sera, au même titre qu'un traducteur, le premier personnage à trahir les vœux d'un couple ?
Je dirais qu'il y a un aspect de vérité, en fait, dans la relation de coprésence que l'on perd dans la relation à distance. Peut-être que c'est notamment dû au fait que la relation, par conséquent, passe énormément par des mots, que ce soit les mots qu'on envoie par... Enfin, surtout les mots qu'on envoie par message, par lettre, ou que l'on dit au téléphone. Et les mots, dans un certain sens, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Ils sont à la fois très importants et très faciles à modifier. J'étais à la conférence de Marie Bergström au début de la semaine et elle disait quelque chose de super intéressant sur, sur la relation. Pour elle, en fait, la banalisation de la relation sexuelle et le fait que dans un couple, on passe très rapidement maintenant à la relation sexuelle alors que ce n'était pas le cas avant, cette banalisation mène au fait que la relation sexuelle en elle-même n'est plus synonyme d'engagement et que maintenant, l'engagement se fait beaucoup plus à travers les mots et c'est vachement plus des engagements oraux. Bien sûr, il y a aussi que l'absence physique de l'autre augmente beaucoup les risques de quiproquo et de malentendus. Avec la quantité importante d'informations qui peuvent passer par le non-dit et par les informations non-verbales quand on est en présence de l'autre. Et j'imagine que oui, ça vous est tous déjà arrivé de subir des quiproquos par message ou par téléphone. C'est des moments terribles et souvent on prend même pas la peine de les corriger quand c'est des petits quiproquos. On se dit bon tant pis, ça demanderait trop de temps de corriger cette information et du coup on s'engage par défaut dans le mensonge, on met un doigt dans l'engrenage et des fois c'est sans faire exprès mais ça peut amener très très loin. Donc en fait la distance à une relation à la fabrication à la fabrication de quelqu'un d'autre et au mensonge qui est très importante, je trouve.
Ouais, en même temps, enfin je trouve que ce que tu dis est assez vrai et que c'est vrai que c'est plus difficile de mentir quand tu es face à quelqu'un. Ça se révèle dans des petits gestes comportementaux, si tu rougis. Enfin, y a plein d'aspects vraiment où c'est plus facile de mentir quand tu utilises juste les mots. Et en même temps, par exemple, enfin, je prendrais juste l'exemple de la lettre, mais ça peut aussi être un moyen d'être plus vrai, d'être plus sincère. Alors, pas forcément par message où il y a une espèce de rapidité qui va avec ce moyen de communication, mais l'absence de l'autre, ça peut aussi permettre de dire des choses hyper sincères qu'on dirait pas s'il était là parce que justement on est gêné, parce que c'est dur émotionnellement. Et il y a aussi cette communication qui, si elle est. Enfin, prendre le temps de la communication, le temps d'écrire la lettre, de la froisser, de la recommencer, de choisir les bons mots. Ça peut aussi amener à être plus vrai. Et donc une relation à distance, je trouve que ça peut permettre d'avoir une espèce de complicité et de sincérité. Enfin, vraiment se comprendre en profondeur et apprendre à se connaître en profondeur. Raconter. Bah, après, il y a aussi le truc de on raconte que ce qu'on a envie de raconter. Mais en même temps, j'ai envie de dire, une relation, ça, quand même, ça se base sur la confiance. Donc c'est quand même à partir du moment où on a décidé de se faire confiance, tu peux mentir par mots, mais ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas le but du jeu, quoi.
Ouais, mais justement, quand tu dis on raconte ce qu'on a envie de raconter, ça me fait penser à un anglicisme terrible qui est le verbe compartimentaliser. Alors on en entend beaucoup parler, en fait. C'est un truc vraiment, je vois ça, je sais pas, en culture populaire britannique, et c'est le fait de vouloir mettre sa vie dans des petits compartiments, et en même temps qu'on met sa vie dans des petits compartiments, donc ses activités, ses groupes d'amis, la façon dont on se comporte avec les gens, et vraiment le masque qu'on porte en société, c'est très goffmanien, en fait, comme perception des relations sociales. En même temps qu'on fait ça, je pense qu'on compartimentalise aussi les endroits où on vit. Donc, si on partage sa vie entre deux villes, par exemple, entre deux continents, entre deux pays, il y a tout à fait moyen pour que ce qu'on raconte et ce qu'on raconte pas soit totalement différent selon l'endroit où on est. À présent, pas selon l'endroit avec lequel on communique, mais selon l'endroit où on est. Et c'est ça la limite.
Après, moi, je trouve que dans tes rapports avec n'importe qui, avec tes amis et tout, dans la vie de tous les jours, tu choisis aussi ce que tu veux dire, ce que tu veux pas dire. Et il y a aussi cette... tu racontes aussi ce que tu veux. T'as pas besoin d'être loin pour choisir, pour qu'on parte mentaliser.
Ah, compliqué, hein. Ouais,
tu vois ce que je veux dire.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage.
Le train va dérailler dès le premier orage. Bon, je vous avais entendu, grand corps malade, qui file une métaphore ferroviaire pour parler de relations. Pas forcément à distance, d'ailleurs, on n'a pas forcément l'impression qu'il parle de relations à distance, mais surtout du fait que toutes les relations, de toute façon, c'est comme une espèce de grand voyage. Mais
ouais, c'est ce qu'on a dit au début, c'est les relations à distance, les voyages, c'est hyper révélateur de tout ce qu'il y a de profond, d'ambigu dans une relation de base, quoi.
Et j'espère qu'on vous a bien rassuré sur les relations à distance, parce que maintenant, c'est le moment de faire un petit point sur les prochains départs. Donc, Mathilde part dans 2 semaines, un peu moins, au Chili, et... Nicolas, tu pars en Chine toujours, Nicolas?
Ben non, grande surprise, je ne pars pas en Chine pour, vous l'aurez imaginé, le coronavirus a totalement empêché le départ de tous les étudiants vers la Chine. Et donc, j'ai réussi à trouver un voyage, enfin, on m'a trouvé un voyage au Canada, donc je vais...
Tout l'agenda change. Finalement, on va sur le même continent.
Voilà, franchement, mais ça va rendre les choses d'autant plus intéressantes, j'en
et
suis sûr.
Et que tout ce qu'on a dit ne vous empêche pas d'appeler et d'envoyer des messages à vos amis qui sont loin.